RCF.
RCF en Drôme et Ardèche.
Près de chez nous, Antoine Loistron.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine près de chez nous. Avec aujourd'hui, avec nous en studio à Valence, Guillaume Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vicaire général du diocèse de Valence.
Tout à fait, il en faut un.
Et oui, et c'est tombé sur vous. Et on vous reçoit aujourd'hui, presque 4 mois après la présentation du rapport de la CIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. On vous avait déjà reçu au moment de la publication de ce rapport et puis on voulait refaire un point avec vous, donc presque 4 mois après. Pour voir un peu les évolutions qu'il y a pu y avoir depuis et puis reparler de tout ça. Avec, pour commencer, d'abord l'actualité la plus récente, si je puis dire, c'est l'annonce par diocèse de Valence de l'apport de 130 000 euros au fonds CELAM, qui est le fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs qui a été créé à la suite de la publication de ce rapport. Expliquez-nous comment on est arrivé à cet apport de 130 000 euros, d'où vient l'argent, enfin comment ça s'est fait. Expliquez-nous un peu.
Oui, il faudrait commencer il y a assez longtemps finalement quand les évêques, lors de différentes assemblées à Lourdes, qui les rassemblent, ont écouté beaucoup de victimes. C'est ce qui a changé, je crois, leur rapport à ce phénomène et à la manière de l'appréhender et du coup de proposer tout un tas de mesures, voilà, la prise en compte de ce phénomène et jusqu'à la commande du rapport de la CIAZ. Dans toutes ces assemblées, ils ont travaillé l'idée de la justice restaurative qui s'intéresse du coup à la prise en compte des victimes, à leur accompagnement et qui se focalise pas uniquement sur les questions d'indemnisation mais qui l'intègre dans un processus qui vise justement à recréer du lien. Les évêques ont donc pris la décision dans leur dernière assemblée de mettre en place justement un organisme indépendant qui donc serait chargé d'une part de qualifier les personnes qui demandent en leur reconnaissant un statut de victime, ce qui est déjà le premier enjeu de cette commission. Et puis ensuite de réfléchir avec elle sur une indemnisation financière possible. Donc pour ça, les évêques ont demandé donc que soit alimenté par les diocèses de France un fonds, le fonds CELAM. Alors du coup, là, on est dans une phase qui est vraiment primaire, c'est-à-dire que le diocèse a donc acté le fait de verser 130 000 euros à ce fonds CELAM. Il y a eu un calcul savant pour calculer un peu le poids financier du diocèse, qui fait pas partie des plus gros diocèses de France, qui au regard de son poids financier donc a décidé de s'engager pour un montant de 130 000 euros, ce qui correspond à peu près à 3% de son budget annuel. Donc c'est quand même un vrai choix financier.
Il vient d'où cet argent ?
Alors cet argent, on n'a pas voulu le prendre sur les dons des fidèles, donc il ne vient pas du denier de l'Église. Il vient des revenus immobiliers du diocèse, parce que le diocèse, en fait, possède des bâtiments qui sont loués. Et donc, du coup, c'est sur ce revenu-là que sont pris ces 130 000 euros. C'est un peu une promesse de don, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est engagé à l'alimenter, puis on verra aussi en fonction des appels de cette commission.
Voilà. L'argent n'est pas encore versé pour l'instant. Est provisionné. Voilà. Et au besoin, il sera apporté au fond.
Exactement, c'est exactement ça. Ouais.
Alors, je crois me souvenir au moment de l'Assemblée des évêques de France à Lourdes, qui était question de vendre du patrimoine immobilier. C'est pas le choix que vous avez fait, vous, dans le diocèse de Valence.
En fait, nous, le patrimoine immobilier, il est pas extensible. C'est-à-dire que le patrimoine immobilier, chez nous, il permet d'équilibrer le budget du diocèse. C'est-à-dire que si on n'avait pas le revenu des immeubles, des locations en paroisse, des choses comme ça, on pourrait pas équilibrer le budget du diocèse parce que le don des fidèles n'y suffit pas. Donc, c'est un peu un enjeu vital.
Et alors, pour en revenir à l'objectif de ce fonds, c'est là, vous disiez, c'était pour indemniser et pour réparer les victimes. Comment ça se passe en fait, détaillez-nous un peu comment il fonctionne ce fonds concrètement.
Écoutez, ce fonds en fait, donc ils ont nommé une responsable qui est une juriste, etc. Et ils n'ont pas communiqué encore sur les détails très précis de la procédure, etc. Ce qui fait que ça ne va pas être géré du tout au niveau des diocèses, ça va être déporté sur cette commission
indépendante.
Indépendante. Donc je ne peux pas vous répondre là.
Et alors, vous, juste pour situer nos auditeurs, en tout, c'est 20 millions d'euros qui ont été abondés par tous les diocèses pour financer ce fonds. Alors, au-delà de cet apport au fond, il y a aussi des actions qui ont été entreprises dans le diocèse de Valence. Je pense notamment à un questionnaire que vous avez fait circuler sur votre site internet, notamment, un questionnaire qui avait eu lieu entre fin octobre et mi-décembre. Qu'est-ce qui ressortait de ce questionnaire où 132 personnes ont participé?
Oui, notre évêque avait souhaité que les diocésains puissent, par tous les moyens, puissent dire quelque chose, participer, partager des réactions et des propositions. On a un peu des données statistiques d'abord sur ces participations, parce que il y a environ 58% de femmes qui ont participé et 42% d'hommes. Ce qui était intéressant, c'était l'âge des participants, parce que autant on verra que dans les réunions qui avaient eu lieu en paroisse pour parler de ce rapport de la SIAS, c'était plutôt des personnes au-dessus de 70 ans. Là, ceux qui ont participé, il y avait 9% entre 20 et 40 ans, 27% entre 41 et 60 ans. Donc ça fait des pourcentages un peu plus jeunes. La deuxième chose qui était frappante, c'était que 84% des personnes avaient lu le rapport. Alors, quand vous voyez le rapport, lu le rapport, je pense que c'est la synthèse du rapport, mais enfin quand même, ça veut dire qu'il y avait un réel intérêt, voilà. Donc de comprendre, etc. Et 92% jugent ce rapport utile, etc. Et à la question, est-ce qu'ils jugent que les dispositifs de prévention actuels sont suffisants, 21% disent oui.
80% disent non.
80% disent non, voilà. Alors on pourra parler de ça, par exemple, parce que ce que nous a révélé, du coup, les rencontres sur le terrain, c'est qu'il y a une méconnaissance importante du phénomène et du dispositif de l'organisation de l'Église. Enfin, on en reparlera peut-être. Mmh. Et puis, il y avait aussi un appel. Souhaitez-vous prendre un rôle dans le diocèse sur ce sujet de la prévention, etc. C'est pour mesurer un peu est-ce que c'est simplement un regard extérieur ou si ça nous mettait en mouvement. Bah, 36% désiraient prendre un rôle. On a donné un premier écho du contenu de ces réactions, s'il fallait les synthétiser. On dirait qu'il y a trois soucis qui émergent fortement de cette enquête. Le premier, d'abord, c'est le souci des victimes, forcément. C'est de l'écoute, de la protection, de la collaboration avec les associations. Les gens sont libres de parler à nous ou de parler à des associations complètement non confessionnelles. Voilà, donc il y a cet aspect-là, donc de collaboration avec des associations dans l'écoute des victimes. Il y avait l'idée aussi de dire, c'est intéressant de repérer où sont les zones de risque. Ça, c'est intéressant, parce que quelqu'un me disait, je travaille en entreprise, dans le nucléaire, par exemple, on repère tout de suite les lieux à risque où il peut potentiellement y avoir un accident. Alors, c'est un peu la même démarche qu'il faudrait accentuer en église, c'est-à-dire potentiellement, là, il y a des enfants, des jeunes, il y a des précarités, il y a des lieux un peu plus sensibles qui sont plus exposés peut-être à des abus, des phénomènes d'emprise, etc. Et du coup, ça serait intéressant de cartographier, d'être plus systématique là-dessus. Il y a toujours une préoccupation qui vient un peu en décalé, mais par rapport aux auteurs. C'est-à-dire que deviennent ces auteurs, comment ils sont traités, jugés, accompagnés, etc., même au-delà de la peine. Donc ça, c'est toujours intéressant, parce que c'est un peu un sujet aveugle. On parle très peu de la prise en charge des auteurs de crimes. Et puis, dans le souci des victimes, c'était aussi que l'Église reconnaisse leur statut de victime, et donc qu'il y ait des gestes un peu symboliques qui soient faits, de prières, de jeûnes, de gestes symboliques, etc. Le souci des victimes apparaît. C'était le premier sujet qui apparaissait. Voilà. Le deuxième sujet, c'était du coup le souci des acteurs pastoraux. Si l'Église est vraiment, elle a une œuvre éducative qui la met en contact avec des jeunes, et que il y a eu des abus de toutes sortes, et qu'il continue à y en avoir, c'était un grand souci des acteurs pastoraux pour qu'il y ait une formation correcte, permanente, que ce soit des prêtres, des diacres, des laïcs engagés dans l'accompagnement des jeunes. Et c'est pour ça que ça a donné lieu, nous, à une grosse proposition de formation sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. C'était des points de repère pour une proximité ajustée. Et c'est une formation qui a été dispensée dans plusieurs endroits du diocèse. Dans le souci des acteurs pastoraux, si vous voulez, on parle beaucoup des prêtres, du coup, de l'équilibre de vie des prêtres, du célibat des prêtres. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui remontent beaucoup dans les contributions sur le site internet. Et puis le troisième souci qui revient dans les contributions à la lecture du rapport sur le site, là, il est lié à toutes les propositions de la SIAZ qui qui interroge la structure et le fonctionnement de l'Église, la gouvernance. Et donc de repérer l'origine un peu systémique des abus. Alors on va interroger la structure, l'organisation hiérarchique de l'Église, le lien entre sacrement et autorité, pouvoir, etc. Du coup, les gens sont très en demande de lisibilité de l'organisation, du fonctionnement, du style de gouvernance, des processus de décision, etc. La proposition du synode sur la synodalité, du coup, qui a été déclenchée par le pape François, avec sa phase diocésaine là de participation, vient répondre de manière assez providentielle à ce questionnement. Quoi, voilà. Donc trois soucis dans cette enquête sur le site: les victimes, les acteurs pastoraux et puis le souci un peu ecclésial. Quoi.
On poursuit la discussion juste après avoir fait une pause musicale, notamment en revenant, vous le disiez, sur les rencontres que vous pouvez avoir avec les fidèles dans les paroisses.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé, le soleil se lève aussi. Et plus forte est sa chaleur, plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ce cahier déchiré, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
pour la noirceur du soleil.
Bernard Lavillier, Jeanne Chéral sur RCF en Drôme et en Ardèche.
Près de chez nous, Antoine Loistron.
Et le nom de ce titre, c'était l'espoir. On est toujours avec Guillaume Tessier, le vicaire général du diocèse de Valence. Avec vous, on évoque les suites au rapport de la CIAS et les actions menées dans le diocèse. Alors, on évoquait avant la pause musicale un questionnaire qui avait été fait en ligne. Et il y avait aussi eu plusieurs rencontres organisées dans les paroisses. Vous étiez vous-même notamment à Grignan et à Nyons le week-end dernier. Qu'est-ce qui ressortait de ces réunions avec les fidèles? Quelles étaient les attentes, les demandes, les envies?
Alors, d'abord, ces réunions ont eu lieu dès après le rapport, la sortie du rapport. On est toujours un peu dans la sidération du phénomène. Voilà. Et la première chose qui frappe le plus, c'est l'enquête en population globale, en fait. C'est-à-dire que quand on présente le rapport de la CIAS, on se focalise bien sûr sur le chiffre qui est effrayant, là, des 300 000 auteurs d'abus. Mais l'enquête en population globale faite par la Commission Sauvé montre que sur 51 millions de Français, il y a 5,5 millions de victimes dans tous les milieux. Et en fait, ce chiffre est extraordinairement grand et c'est une réalité cachée, en fait. Les victimes d'abus de la part d'ecclésiastiques ou de laïcs œuvrant dans l'Église, c'est une réalité qui a pu se faire jour grâce au témoignage des victimes, mais ce qui nous sidère, c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on fait une réunion, bah, possiblement, vu le nombre potentiel de victimes dans la population globale, on se dit bah, c'est une réalité qui nous touche de près en fait, et qui peut être encore cachée, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à des gens qui eux-mêmes sont victimes ou qui sont très proches de victimes. Ça nous renvoie à notre responsabilité dans l'Église de changer de regard. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, je pense, complètement intégré que bah, le peuple auquel on s'adresse, et d'une manière générale les gens qu'on rencontre, eh bien, pour une part, c'est des gens qui sont cabossés par la vie, mais de manière profonde, quoi. Je pense que le regard de l'Église et des accompagnateurs, des gens qui sont acteurs dans l'Église, va continuer à s'affiner pour bien intégrer que quand on accompagne, on reçoit des personnes, eh bien, il faut aussi être à l'écoute des signaux qui nous disent que là, il y a des réalités blessées, etc. La deuxième chose que je dirais sur ces réunions, c'était le soulagement global d'en parler, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui venaient disaient merci d'en parler, d'oser en parler, que c'est co-animé souvent entre quelqu'un de la paroisse, il y a quelqu'un du diocèse parce qu'il y a des membres de la cellule d'écoute des victimes. Quelquefois, il y a eu aussi, on a une référente dans le diocèse qui est salariée pour l'éducation affective, relationnelle et sexuelle et qui s'occupe de la mise en place des actions de prévention. Voilà, moi, le vicaire général, l'évêque, enfin voilà. Bon, après, ce qui est marquant dans les paroisses, c'est l'âge des participants, c'est-à-dire que c'est souvent 65 ans et plus. Alors ça nous dit, c'est très délicat à interpréter, c'est-à-dire que bon, après, c'est des gens qui sont dans un engagement durable et long dans l'Église, et donc ils ont à cœur cette réalité-là. Leur expérience aussi fait que, eh bien, ils sont porteurs de ce que l'Église a vécu dans les années 60 et avant. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que la plupart des personnes qui sont écoutées par la cellule d'écoute, par exemple, du diocèse de Valence, dans l'immense majorité des cas, c'est des cas très anciens de prêtres qui sont décédés à l'époque où c'était dans le cadre de la vie paroissiale, des colonies, des patronages, des choses comme ça. Voilà, donc on sent que ces personnes-là, ils ont une mémoire longue et qu'elles ont besoin de parler parce que c'est un silence long, finalement, pour elles.
Depuis le rapport, il y a plus d'appels à la cellule d'écoute, vous avez remarqué
Il y a eu une douzaine d'appels, voilà, de gens qui se sont manifestés, mais pour vouloir être entendus, pour vouloir aussi qu'on reconnaisse qu'elles ont été victimes. Quelquefois, elles ont souci de savoir s'il y a d'autres victimes, mais comme les faits sont quand même très anciens, voilà. Alors, il y en a deux, je crois, qui ont décidé de faire une démarche de signalement en justice, même si les faits étaient prescrits, etc. Voilà, nous, on les encourage à ne pas rester seuls, de toute façon, avec leur souffrance. Voilà. Après, je pense que bah, ce qu'on disait par rapport à l'enquête du site, mais est vrai là, c'est-à-dire que c'est un vrai souci des personnes, quoi. Comment sont pris en charge les victimes, etc. Et puis, du coup, comment nous, on est plus responsables encore vis-à-vis de ce phénomène. Après, je pense qu'il y a aussi une grande méconnaissance du phénomène. C'est-à-dire que quand on parle de pédophilie, d'actes pédophiles, d'abus, simplement, de quoi on parle, en fait. Et là, je pense que c'est très caractéristique de la société. Je pense qu'il a fallu attendre les années 2000. Et quand on écoute les anciens, en fait, la pédophilie n'était pas comprise comme une pathologie. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je pense que il y a encore à progresser dans la compréhension des origines, pourquoi, etc. Parce que sinon, ça donne lieu à toutes les fantasmagories. Et ce qui est délicat, d'ailleurs, dans la question des prêtres, parce que du coup, on se dit, bon, bah, il y a des prêtres abuseurs, donc tous les prêtres sont abuseurs. Comme c'est pareil, c'est-à-dire que la grille de lecture, maintenant, c'est la prédation, quoi. Bon, donc du coup, il faut rapporter quand même de la raison et de l'analyse. Surtout que c'est un sujet qui touche les prêtres, mais qui touche aussi très largement la société. Enfin, je veux dire, la plupart des pédophiles sont des gens mariés. Et puis après, un souci de compréhension, ben, finalement, on s'aperçoit que les gens ne voient pas bien comment vivent les prêtres, comment fonctionne l'Église, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à expliquer et à donner du sens aussi, parce que c'est important, quoi.
Alors, pour avancer et du coup, voir maintenant plus loin dans le futur, à quoi vont ressembler les prochains mois? C'est continuer sur cette logique d'explication, de formation, de compréhension.
Les prochains mois, d'abord, c'est bien rendre lisible que si on est victime, si on a été, on peut s'adresser à qui et comment. C'est un souci majeur, ça. Que ces personnes aient une écoute ou qu'on les oriente vers une écoute, etc. Moi, je suis toujours effrayé par le fait qu'il y a des gens qui n'osent pas parler, quoi. Certains ont dit on a osé parler parce que, ah oui, tiens, on a vu que après le rapport, il y a des gens qui avaient osé, alors ça nous encourage, quoi. Donc on se dit, et toute forme d'abus d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est surtout ça. Ensuite, deuxièmement, ça va être bien sûr petit à petit améliorer les propositions de formation, de prévention, etc. Et il y a des mesures très concrètes, par exemple pour sécuriser. C'est vrai que moi je suis sensible, quelqu'un qui fait confiance à l'Église pour une activité dans laquelle il inscrit son enfant. Moi, je trouve tout à fait normal de dire, bah, écoutez, voilà, on a des gens responsables, il y a des protocoles qui permettent de dire que ce cadre est sécurisé, voilà. Et donc, bien sûr, il y a l'idée que les gens doivent fournir leur casier judiciaire. Donc ça, en fait, il faut le faire dans le respect du droit, dans le respect des règles de la protection des données personnelles. Et c'est en train d'être bien mis au point de manière cohérente par la conférence des évêques. Donc, c'est des choses qui vont s'appliquer. Et ça sera important à la rentrée prochaine, par exemple. Voilà. Donc formation, des protocoles un peu aussi de fonctionnement. Et puis, nous, on se dit aussi, c'est très important d'écouter les acteurs, donc que ce soit les prêtres, les gens en responsabilité auprès des jeunes, etc., de les accompagner dans leur responsabilité, voilà, qu'ils ne restent pas seuls.
Merci beaucoup, Guillaume Tessier, d'être venu nous parler de ce sujet. Je rappelle, vous êtes le vicaire général du diocèse de Valence et d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Ouais, merci beaucoup.